Chapitre 17. De la venue des hommes dans l'Ouest. Quand plus de 300 ans eurent passé depuis la venue des Noldor en Beleriand, au temps de la longue paix, Finrod Felagund, seigneur de Nargothrond, voyagea à l'est du Sirion et s'en fut chassé avec Maglor et Maedros, les fils de Fëanor. Mais il se lassa de la chasse et continua seul vers les montagnes des Ered Lindon qui chatoyaient au loin. Et ayant emprunté la route des nains, il franchit le Gellion au gué de Sarn Athrad et prit enfin au sud, traversant le cours supérieur de l'Ascar, jusque dans le nord de l'Ossiriand. Dans une vallée au pied des montagnes, sous les sources du Thalos, il discerna des lumières dans le soir et perçut la rumeur de chants lointains. Il en fut bien étonné, car les elfes verts de ce pays n'avaient pas coutume d'allumer des feux ni de chanter à la nuit tombée. Il craignit d'abord qu'une incursion d'orques eût franchi le blocus du nord. Mais en s'approchant, il comprit qu'il n'en était rien, car les chanteurs parlaient une langue qu'il n'avait jamais entendue, ni chez les nains, ni chez les orques. Lors Felagund, debout dans l'ombre nocturne, se tint en silence sous les arbres, et plongeant son regard vers le campement, il contempla un peuple étrange. Or, c'étaient là quelques-uns des proches et des suivants de Béor l'Ancien, comme on l'appela ensuite, un chef parmi les hommes. Après plusieurs vies d'errance depuis les confins de l'Est, il les avait conduits au-delà des montagnes bleues, premiers de la race des hommes à pénétrer en Beleriand. Et ils chantaient parce qu'ils étaient heureux et croyaient avoir éludé tous les dangers, parvenus enfin dans un pays qui ne connaissait pas la peur. Longtemps Felagund les observa, et son cœur se prit d'amour pour eux. Mais il resta caché parmi les arbres jusqu'à ce qu'ils fussent tous endormis. Alors, il se rendit parmi les corps assoupis, et il s'assit près de leur feu mourant, où nul ne montait la garde. Puis, saisissant une harpe grossière que Béor avait posée là, il y joua une musique comme il n'en était jamais venu aux oreilles des hommes. Car en cet art, il n'avait encore jamais eu de maître, sinon les elfes sombres des terres sauvages. Or, les dormeurs s'éveillèrent et écoutèrent Felagund jouer et chanter. Et chacun imagina qu'il se trouvait dans un beau songe avant de voir que ses compagnons s'éveillaient à leur tour. Mais aucun ne parla ni ne bougea, cependant que Felagund continuait de jouer, tant la musique était belle et le chant merveilleux. La sagesse respirait en les mots du roi elfe, et les cœurs qui l'écoutaient en devenaient plus sages, car ce qu'il disait en chant de la création d'Arda et de la félicité d'Aman par-delà les ombres de la mer s'imposait à leurs regards comme de claires visions, tandis que leurs esprits interprétaient son parler elfique, chacun à sa mesure. C'est ainsi que le roi Felagund, premier de tous les Eldar que les hommes rencontrèrent, reçut de ces derniers le nom de Nome, ce qui, dans la langue de ce peuple, signifie « sagesse ». Et ils nommèrent ses semblables d'après lui, et les appelèrent « Nomin », les sages. En vérité, ils s'imaginèrent tout d'abord que Felagund était l'un des Valar, dont ils avaient entendu dire qu'il vivait loin dans l'Ouest. Et d'aucuns disent que c'était là la raison de leur voyage. Mais Felagund demeura parmi eux et leur apprit le savoir véritable. Et ils l'aimèrent et le prirent pour seigneur, et ils restèrent toujours loyaux à la maison de Finarfin. Or, les Eldar étaient plus doués pour les langues qu'aucun autre peuple. Et Felagund s'aperçut aussi qu'il pouvait lire en l'esprit des hommes les pensées qu'ils souhaitaient révéler par la parole, de sorte que ce qu'ils disaient pouvait aisément être compris. On dit aussi que ces hommes étaient depuis longtemps en commerce avec les elfes sombres à l'est des montagnes, dont ils avaient largement assimilé la langue. Et puisque toutes celles des Quendi avaient une même origine, le parler de Béor et de ses gens ressemblait à l'elfique en de nombreux vocables et principes. Avant peu, Felagund put donc s'entretenir avec Béor, et ils parlèrent beaucoup ensemble tant qu'il demeura parmi eux. Mais quand il l'interrogeait à propos de l'avènement des hommes et de leur pérégrination, Béor ne disait pas grand-chose. De fait, il n'avait pas grand-chose à rapporter, car les pères de sa tribu avaient transmis peu de récits du passé, et un silence avait frappé leur mémoire. « Derrière nous, il y a des ténèbres, » disait Béor. « Nous leur avons tourné le dos, et nous ne désirons pas y retourner même en pensée. Nos cœurs se sont tournés vers l'ouest, et nous croyons que là-bas, nous trouverons la lumière. » Mais on raconta plus tard chez les Eldar que lors de l'éveil des hommes en Ildorienne, au lever du soleil, les espions de Morgoth étaient aux aguets. Ce dernier ne tarda pas à l'apprendre, et l'affaire lui parut d'une telle importance qu'il quitta lui-même Angband en secret et sous couvert d'ombre et s'aventura en terre du milieu, laissant à Sauron la conduite de la guerre. S'il est vrai que les Eldar ne savaient rien à l'époque du commerce qu'il entretint avec les hommes et qu'ils n'en surent jamais beaucoup plus, ils percevaient nettement les ténèbres qui pesaient sur le cœur des hommes, comme l'ombre du massacre fratricide et du destin de Mandos pesait sur le cœur des Noldor, même chez les peuples amis des elfes qu'ils connurent en premier. Corrompre ou détruire ce qu'il y a de plus neuf et de plus beau, tel a toujours été le suprême désir de Morgoth. Et il n'y a pas à douter qu'il se fût déplacé également dans cet objectif. Soulever les hommes contre les Eldar par la peur et le mensonge, et les faire venir de l'Est à l'encontre du Beleriand. Mais ce dessein mit longtemps à mûrir et ne s'accomplit jamais entièrement. Car les hommes, dit-on, étaient fort peu nombreux au début, tandis que Morgoth s'inquiétait du pouvoir grandissant des Eldar et de la force de leur union. Aussi rentra-t-il à Angband, ne laissant derrière lui que quelques serviteurs, et non des plus puissants ni des plus habiles. Or, Felagund apprit de Béor que beaucoup d'autres hommes de semblable disposition voyageaient également vers l'ouest. « D'autres de mes parents ont franchi les montagnes, » dit-il, « et ils errent non loin d'ici. Et les Haladin, un peuple dont la langue nous est étrangère, s'attardent dans les vallées du versant oriental. Eux attendent des nouvelles avant de s'aventurer plus loin. Il y en a d'autres encore, dont la langue est plus proche de la nôtre, avec qui nous avons parfois lié commerce. » Ils étaient devant nous dans la marche vers l'ouest, mais nous les avons dépassés, car c'est un peuple nombreux. Toutefois, ils restent unis et vont lentement, comme ils sont tous sous l'autorité d'un seul chef qu'ils nomment Marak. Or, la venue des hommes inquiétait les elfes verts de l'Osiriand. Et lorsqu'ils apprirent qu'un seigneur des Eldar d'outre-mer était parmi eux, ils dépêchèrent des messagers auprès de Felagund. « Seigneur, » dirent-ils, « si vous avez quelque ascendant sur ces nouveaux venus, priez-les de retourner d'où ils viennent ou de passer leur chemin. Car nous ne voulons pas d'étrangers ici pour troubler la paix de nos vies. Et ces gens sont des abatteurs d'arbres et des chasseurs de bêtes. Aussi nous ne sommes pas leurs amis. Et s'ils ne veulent pas partir, nous les accablerons par tous les moyens possibles. » Alors, sur le conseil de Felagund, Béor rassembla toutes les familles et les fratries errantes de son peuple, et ils se retirèrent au-delà du Gélion et s'établirent dans les terres d'Amrod et Amras, sur les berges orientales du Kélon, au sud de Nan-Elmoth, près des frontières du Doriath. Et ce pays fut désormais connu sous le nom d'Estolad, le campement. Mais quand, après une année, Felagund voulut rentrer dans son propre pays, Béor lui demanda la permission de l'accompagner. Et il demeura au service du roi de Nargothrond pour le restant de ses jours. C'est ainsi qu'il reçut le nom qu'on lui connaît, Béor, lui qui jusque-là se nommait Balan, car Béor signifiait « vassal » dans la langue de son peuple. Il confia son autorité à Baran, son fils aîné, et il ne revint jamais en Estolad. Peu après le départ de Felagund, les autres hommes dont Béor avait parlé arrivèrent en Beleriand à leur tour. Il y eut d'abord les Haladin. Mais devant l'inimitié des elfes verts, ils montèrent vers le nord et s'établirent au Thargelion, dans le pays de Caranthir, fils de Fëanor. Là, ils eurent un temps la paix, et le peuple de Caranthir ne leur prêta guère attention. L'année suivante, Marak conduisit les siens au-delà des montagnes. C'étaient des gens de haute stature et d'humeur guerrière, qui se déplaçaient en compagnie ordonnée, et les elfes de l'Osiriand se cachèrent plutôt que d'essayer de leur barrer la route. Mais Marak, ayant appris que les gens de Béor vivaient en des terres verdoyantes et fertiles, descendit la route des nains et s'établit dans le pays au sud et à l'est des habitations de Baran, fils de Béor. Et il y eut bientôt une grande amitié entre ces deux peuples. Felagund lui-même retournait souvent parmi les hommes pour leur rendre visite. Et bien d'autres elfes des terres occidentales, tant des Noldor que des Sindar, voyageaient en Estolad, désireux de voir les Edain, dont la venue était annoncée depuis si longtemps. Atani, le second peuple, avait été le nom des hommes dans la tradition du Valinor prédisant leur venue. Mais ils devinrent les Edain, dans le parler du Beleriand, où cette appellation ne désignait toutefois que les trois peuples des Amis des Elfes. Fingolfin, en tant que roi de tous les Noldor, envoya des messagers leur donner la bienvenue. Sur quoi, bon nombre de jeunes Edain, hardis et volontaires, quittèrent leur famille et entrèrent au service des rois et des seigneurs des Eldar. L'un d'eux était Malak, fils de Marak, qui demeura au Ithlom pendant 14 années, et il apprit la langue elfique et reçut le nom d'Aradan. Les Edain ne furent pas longtemps satisfaits de demeurer en Estolad, car bon nombre d'entre eux désiraient continuer vers l'ouest. Toutefois, ils ne savaient par où passer. Les barrières du Doriath se dressaient devant eux, et au sud s'étendaient le Sirion et ses marais infranchissables. Aussi les rois des trois maisons des Noldor, qui voyaient en les fils des hommes un espoir de renfort, mandèrent-ils aux Edain que tous ceux qui le souhaitaient étaient libres de venir auprès d'eux et de s'établir parmi leurs gens. Ainsi commença la migration des Edain, progressivement au début, puis par famille et par fratries entières. Ils se levèrent et quittèrent l'Estolade, si bien qu'après une 50aine d'années, plusieurs milliers avaient gagné les terres des rois. La plupart prirent le long des tours par le nord jusqu'à mieux connaître tous les chemins. Le peuple de Béor se rendit au Dorthonion et vécut en des terres gouvernées par la maison de Finalfin. Ceux du peuple d'Aladan, car Marak son père demeura en Estolad jusqu'à sa mort, continuèrent pour la plupart vers l'ouest, et certains parvinrent en Ithlom. Mais Magor, fils d'Aladan, et de nombreux autres, descendirent le Sirion jusqu'en Beleriand, et vécurent un temps dans les combes au sud des Eredwethrin. On dit qu'en toutes ces affaires, nul ne prit conseil auprès du roi Fingol, hormis Finrod Felagund. Et Fingol se montra contrarié par cela, mais aussi parce que des rêves étaient venus le troubler concernant la venue des hommes, et ce, bien avant les premières rumeurs de leur arrivée. Aussi émit-il ce décret, que les hommes ne peupleraient aucun territoire sinon dans le nord, et que les princes qu'ils servaient devraient répondre de toutes leurs actions. Et il déclara « Nul homme n'entrera au Doriath tant que mon royaume perdure, pas même ceux de la maison de Béor qui servent Finrod le bien-aimé. » Méliane ne fit à ce moment aucune remarque, mais elle confia plus tard à Galadriel « Voici que le monde court à des événements de grande ampleur, et il viendra bel et bien un homme de la maison de Béor même, et la ceinture de Méliane ne le retiendra pas. Car un destin plus grand que mon pouvoir l'enverra, et les champs que sa venue fera naître subsisteront quand même toute la terre du milieu aura changé. » De nombreux hommes demeurèrent toutefois en Estolad, et de longues années après, vivait encore là un peuple disparate, jusqu'au jour où, dans la ruine du Beleriand, ils furent emportés ou contraints de retourner dans l'Est. Car en plus des vieillards qui avaient fait leur deuil des jours d'errance, ils n'étaient pas peu nombreux à vouloir suivre leur propre voie, et ils craignaient les Eldar et la lumière de leurs regards. Et des dissensions apparurent alors chez les Edain, où l'ombre de Morgoth peut se reconnaître, car il était certainement au courant de la venue des hommes en Beleriand et de leur amitié grandissante avec les elfes. Les chefs des agitateurs étaient Bereg, de la maison de Béor, et Amlak, l'un des petits-fils de Marak. Et il disait ouvertement « Nous avons suivi de longs chemins pour nous sauver des périls de la terre du milieu et des êtres sombres qui y vivent, car on nous disait qu'il y avait une lumière dans l'ouest. Mais voilà qu'on apprend que la lumière se trouve au-delà de la mer. Il nous est impossible d'aller là où séjournent les dieux dans la félicité, sauf un seul, car le Seigneur des Ténèbres est ici devant nous, et les Eldar, sage mais redoutable, qui lui livre une guerre sans fin. C'est dans le nord qu'il habite, dit-on. Et de là viennent la souffrance et la mort que nous avons fui. Nous n'irons pas de ce côté. » Les hommes furent alors appelés à s'assembler en conseil, et ils vinrent en grand nombre. Et les amis des elfes répondirent à Béreg : « Oui, c'est du roi sombre que proviennent tous les maux que nous fuyons. Mais il aspire à dominer toute la terre du milieu, et où nous tourner à présent qu'il ne puisse nous poursuivre ? À moins qu'il ne soit vaincu ici, ou à tout le moins encerclé. Seule la valeur des Eldar le tient en échec, et peut-être était-ce dans ce dessein, afin de les assister dans cette épreuve, si l'on nous a conduits dans ce pays. » À cela Béreg répondit : « Que les Eldar y veillent, nos vies sont déjà assez courtes. » Mais il s'éleva un homme que tous prirent pour Amlak, fils d'Imlak, et il prononça de terribles paroles qui firent trembler le cœur de tous ceux qui l'entendirent. « Tout cela n'est que fable elfique, des histoires pour endormir les nouveaux venus qui sont sans méfiance. La mer n'a pas d'autre rivage. Il n'y a pas de lumière dans l'ouest. Vous avez suivi un mirage des elfes jusqu'au bout du monde. Qui d'entre vous a jamais vu le moindre signe des dieux ? Qui a jamais contemplé le sombre roi du Nord ? Ceux qui aspirent à dominer la terre du milieu sont les Eldar. Avides de richesses, ils ont creusé la terre pour en découvrir les secrets et ont encouru la colère de ceux qui vivent au-dessous, comme ils l'ont toujours fait et le feront toujours. Que les orques disposent de leur royaume et nous disposerons d'une autre. Il y a de la place dans le monde si les Eldar nous laissent en paix. » Alors ceux qui écoutaient restèrent un moment stupéfaits, et une ombre de peur les saisit. Et ils résolurent de partir loin des terres des Eldar. Mais peu après, Amlak revint parmi eux, et il nia avoir été présent au débat et prononcer les paroles qu'on lui attribuait. Et le doute et la confusion s'installèrent parmi les hommes. Lors, les amis des elfes dirent : « Maintenant vous croirez au moins ceci. Il existe bel et bien un seigneur sombre, et ses espions et ses émissaires sont parmi nous, car il a peur de nous et de la force que nous pourrions donner à ses adversaires. » Mais d'aucuns s'entêtèrent à répondre : « Il nous hait plutôt, et toujours un peu plus chaque jour où nous restons ici, à nous mêler de sa querelle avec les rois des Eldar sans y gagner quoi que ce soit. » Ainsi, bon nombre de ceux qui étaient restés en Estolad s'apprêtèrent à partir. Et Béreg mena un millier d'hommes du peuple de Béor vers le sud, et ils disparurent des champs de cette époque. Mais Amlak se repentit, disant : « Voilà que moi aussi j'ai querelle avec ce maître du mensonge, et je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. » Après quoi, il s'enfuit dans le nord et entra au service de Maedhros. Mais ceux de son peuple qui pensaient comme Béreg se choisirent un nouveau chef, et ils repassèrent les montagnes jusqu'en Eriador et furent oubliés. Cependant, les Haladin étaient contents de demeurer en Thargelion. Mais Morgoth, voyant que le mensonge et la tromperie ne suffiraient pas à consommer la rupture entre elfes et hommes, fut pris d'une grande colère, et il entreprit de faire aux hommes tout le mal qu'il pouvait. Il envoya donc une troupe d'orques vers l'est, où elle put échapper au blocus et revenir secrètement par les Ered Lindon à travers les cols de la route des nains, avant de s'abattre sur les Haladin dans les bois au sud du pays de Calanthir. Or, les Haladin n'étaient pas regroupés autour de seigneurs, mais dispersés. Chaque domaine était à l'écart des autres et gouvernait ses propres affaires. Aussi mirent-ils du temps à s'unir. Mais il y avait parmi eux un dénommé Haldad, industrieux et intrépide. Et il rassembla tous les hommes de bravoure qu'il put trouver et se retira sur la langue de terre entre l'Ascar et le Gélion. Et tout au bout de la pointe, il dressa une palissade d'une rive à l'autre et mena de ce côté toutes les femmes et tous les enfants qu'il put sauver. Ils y furent assiégés jusqu'à l'épuisement de leurs vivres. Haldad avait des jumeaux, sa fille Alet et son fils Haldar, et tous deux défendirent vaillamment le fortin, car Alet était une femme forte et courageuse. Mais Haldad tomba enfin lors d'une sortie contre les orques. Et Haldar, qui avait sauté dans la mêlée pour sauver le corps de son père de la boucherie, fut terrassé à ses côtés. Lors, Alet s'occupa de maintenir leur rang, bien que l'espoir les eût quittés, et certains se jetèrent dans les eaux et s'y noyèrent. Mais 7 jours plus tard, comme les orques donnaient l'assaut final et avaient déjà enfoncé la palissade, un son de trompette s'éleva soudain, et Calanthir et son armée descendirent par le nord et précipitèrent les orques dans les 2 rivières. Lors, Calanthir traita les hommes avec bienveillance et fit grand honneur à Aleth, et il lui offrit compensation pour la mort de son père et de son frère. Et, voyant bien tard quelle était la valeur des Edain, il lui dit « Si vous consentez à venir vous établir au nord, vous y trouverez l'amitié et la protection des Eldar, et des terres franches qui vous appartiendront. » Mais Aleth était fier, et répugnait à se laisser mener ou gouverner, et la plupart des Haladin étaient de même disposition. Aussi elle remercia Calanthir, mais répondit « Ma résolution est prise, Seigneur, de quitter l'ombre des montagnes et d'aller vers l'ouest, où d'autres de nos semblables sont déjà partis. » Quand donc les Haladin eurent rassemblé tous ceux des leurs qui avaient survécu à leur fuite éperdue dans les bois à l'arrivée des orques, et récupéré ce qui restait de leurs biens dans leurs domaines incendiés, ils prirent Aleth pour chef, et elle les conduisit enfin en Estolade, et y demeura un temps. Mais il restait un peuple à part, qu'Elfeom ont toujours surnommé depuis lors le peuple de Haleth. Haleth demeura leur chef pour le restant de ses jours, mais elle ne se maria jamais, et l'autorité passa ensuite à Haldan, fils de Haldar, son frère. Or, Haleth désira bientôt poursuivre la migration vers l'ouest, et bien que la plupart des siens fussent d'un avis contraire, elle marcha à leur tête une fois de plus. Et sans l'aide ni les conseils des Eldar, ils franchirent le Kelon et la Ros, et traversèrent la dangereuse contrée entre les montagnes de la Terreur et la ceinture de Méliane. Même alors, ce pays n'était pas aussi funeste qu'il le devint par la suite. Mais pour des hommes mortels privés de secours, ce n'était point une route à prendre, et Aleth ne put y mener ses gens qu'au prix de rudes épreuves et de lourdes pertes, les contraignant à poursuivre par sa seule ténacité. Ils franchirent enfin le Brithiac, et nombre d'entre eux regrettèrent amèrement ce voyage. Mais il n'y avait plus de retour possible. Dans de nouvelles terres, donc, ils reprirent leur ancienne vie comme ils le purent, et ils s'établirent en des domaines francs dans les bois de Talath d'Irinen, au-delà du Teiglin, et d'aucuns s'aventurèrent très avant dans le royaume de Nargothrond. Mais beaucoup d'autres, par amour pour la dame Aleth, étaient déterminés à la suivre où qu'elle allât et à vivre sous son commandement. Et elle les conduisit dans la forêt de Brethil, entre le Teiglin et le Sirion. Et ces gens dispersés, lors des jours funestes qui s'ensuivirent, furent nombreux à aller l'y rejoindre. Or, le roi Thingol regardait Brethil comme partie de son royaume, quand même elle se trouvait hors de la ceinture de Méliane, et l'eût refusée à Aleth. Mais Felagund, qui avait l'amitié de Thingol, et qui savait tout ce que le peuple de Aleth avait enduré, lui obtint cette faveur, celle de demeurer librement à Brethil, à la seule condition que son peuple garde les passages du Teiglin contre tous les ennemis des Eldar, et ne laisse aucun des orques pénétrer dans leurs bois. Ce à quoi Aleth répondit « Où sont Haldad mon père et Haldar mon frère? Si le roi du Doriath craint l'amitié de Aleth envers ceux qui ont dévoré sa famille, les pensées des Eldar sont certes étrangères aux hommes. » Et Aleth vécut à Brethil jusqu'à sa mort. Et son peuple érigea un tertre de gazon sur sa dépouille dans les hauteurs de la forêt, Tur Aretha, le tertre de la dame, Aud en Arwen, dans la langue Sindarin. C'est ainsi que les Edain finirent par occuper les terres des Eldar, ici, là ou là-bas, tantôt en errance, tantôt établis par famille ou en petite communauté. Et la majeure partie apprit bientôt la langue gris-elfique, autant pour communiquer entre eux d'un parler commun que pour satisfaire le désir de beaucoup, qui était d'apprendre le savoir des elfes. Mais au bout d'un certain temps, les rois elfes, voyant qu'il était mauvais pour les elfes et les hommes de vivre ainsi mêlés sans ordre aucun, et constatant que les hommes avaient besoin de seigneurs de leur propre espèce, délimitèrent certaines régions où les hommes pourraient vivre en toute indépendance et désignèrent des chefs pour y régner sans partage. À la guerre, s'ils étaient alliés aux Eldar, ils marchaient sous la bannière de leur propre chef. De nombreux Edain goûtaient cependant l'amitié des elfes et demeuraient parmi eux aussi longuement qu'ils en avaient la permission. Et il n'était pas rare que les jeunes gens prissent quelque temps du service dans les armées des rois. Or, Ador Lorindol, fils de Athol, fils de Magor, fils de Malak Aladan, rejoignit dans sa jeunesse la maisonnée de Fingolfin, et le roi se prit d'affection pour lui. Fingolfin lui confia donc la suzeraineté du Dor Lomin, et Ador y rassembla la plupart des gens de sa parenté, et devint le plus puissant des chefs des Edain. Seule la langue elfique était en usage dans sa maison, mais il n'oubliait pas leur parler ancestral, qui donna ensuite la langue commune de Númenor. Au Dorthonion, toutefois, la suzeraineté du peuple de Béor et le pays de Ladros échurent à Boromir, fils de Boron, qui était le petit-fils de Béor l'Ancien. Les fils de Ador se nommaient Galdor et Gundor, et les fils de Galdor, Urin et Uor. Et Urin allait devenir le père de Turin, le fléau de Glaurung. Et Uor, celui de Tuor, père d'Iarendil le béni. Le fils de Boromir se nommait Bregor, qui eut deux fils, Bregolas et Barahir. Et les fils de Bregolas étaient Baragund et Beregund. La fille de Baragund était Morwen, mère de Turin, et celle de Belegund, Rian, mère de Tuor. Mais le fils de Barahir n'était autre que Beren Une-Main, qui gagna l'amour de Luthien, la fille de Thingol, et qui revint des morts. De leur union naquit Elwing, l'épouse d'Earendil, et tous les rois de Númenor par la suite. Tous ces hommes furent pris dans les raids du destin d'Enoldor, et ils accomplirent de grandes prouesses dont les Eldar ont conservé la mémoire dans les chroniques des rois anciens. Et à cette époque, la force des hommes s'ajouta à la puissance d'Enoldor, ravivant leurs espoirs. Et Morgoth était étroitement encerclé, car le peuple de Hador, endurci au froid et aux longues errances, ne craignait pas de s'aventurer loin au nord de temps à autre pour y surveiller les mouvements de l'ennemi. Les hommes des trois maisons prospérèrent et se multiplièrent, mais la plus grande des trois était celle de Ador chef doré, l'égal des seigneurs des elfes. Grands et forts étaient ces hommes, d'esprit résolu, hardi et constant, prompts à la colère et au rire, puissants parmi les enfants d'Ilúvatar au temps de la jeunesse des hommes. Ils étaient blonds pour la plupart et avaient les yeux bleus. Mais ce n'était pas le cas de Turin, dont la mère était Morwen, de la maison de Béor. Les hommes de cette maison avaient la chevelure sombre ou brune avec des yeux gris. Et entre tous les hommes, ils ressemblaient le plus aux Noldor, dont ils étaient les préférés. Car ils avaient l'esprit avide et les mains habiles, l'intelligence vive, la mémoire longue, et ils étaient plus enclins à la pitié qu'au rire. Ceux du peuple forestier de Haleth leur ressemblaient, mais ils étaient de moindre stature et moins avides de connaissances. Ils étaient peu loquaces et fuyaient les grands concours de peuple, et nombre d'entre eux goûtaient la solitude, errant à loisir dans les forêts verdoyantes, tandis que les merveilles du pays des Eldar étaient nouvelles à leurs yeux. Mais dans les royaumes de l'Ouest, leur séjour fut bref et leurs jours malheureux. La vie des Edain s'allongea, à la mesure des hommes, après leur venue en Beleriand. Mais Béor l'Ancien finit par s'éteindre après avoir vécu 93 ans, dont 44 au service du roi Felagund. Et quand il mourut, ni de blessure ni de chagrin, mais terrassé par la vieillesse, les Eldar virent pour la première fois le déclin rapide de la vie des hommes et la mort par lassitude qui leur était inconnue. Et ils s'affligeaient beaucoup de la perte de leurs amis. Mais Béor avait fini par laisser sa vie de plein gré, et il était parti en paix. Et les Eldar s'étonnèrent grandement de l'étrange destin des hommes, car leur tradition était muette à ce sujet, et son aboutissement leur était caché. Néanmoins, les Edain d'autrefois apprirent rapidement des Eldar tout l'art et le savoir qu'ils pouvaient absorber, et leurs descendants gagnèrent en sagesse et en habileté jusqu'à surpasser de beaucoup les autres hommes qui vivaient encore à l'est des montagnes et n'avaient pas rencontré les Eldar, ni contempler ses visages où la lumière du Valinor s'était posée.